de plus amples informations, contactez Moisson Kamouraska.
Entrepreneurs, gestionnaires de flotte, industriels, plus besoin de jongler avec plusieurs fournisseurs. Les succursales OK Pneus André Ouellet et OK Pneus La Malbaie offrent tout sous un même toit. Pneus, réchappage, vulcanisation, fabrication de roues sur mesure et services de route. Commercial, industriel, agricole, génie civil, foresterie, un seul appel et ils s'occupent de tout. Livraison express en 24 heures, vaste inventaire. Pneus andréouellet.com ou OKPneusLaMalbaie.com.
Si, les nouvelles. Eh bien, c'est fait. Le Canadien de Montréal a finalement accédé aux séries d'après-saison. L'équipe de l'entraîneur Martin Saint-Louis a assuré sa place dans le tournoi printanier à son tout dernier match de la saison en disposant des Hurricanes de la Caroline hier soir au Centre Bell par le pointage de 4-2. Le tricolore qui va affronter les Capitals de Washington en première ronde des séries. La date du premier match sera dévoilée sous peu. Eh bien, le nom de Donald Trump a été prononcé à plusieurs reprises durant le débat des chefs libéraux, celui en français, particulièrement pendant la première partie hier soir. Mark Carney a affirmé qu'il est le mieux placé pour négocier avec le président des États-Unis, mais ses adversaires ont prétendu le contraire. On va entendre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui s'est montré cinglant envers son rival libéral.
Vous vous revendiquez d'une expertise en gestion de crise, je n'en ai vu aucune. Vous revendiquez d'une expertise en négociation, permettez-moi de dire peut-être en paradis fiscaux, mais en négociation de traités de commerce, je n'ai pas vu ça. On doit prendre votre parole sans expérience en politique. On essaie de marquer des points dans une division qui ne sert que la stratégie des États-Unis.
Et pour sa part, le chef conservateur Pierre Poilievre a soutenu qu'il se distingue de ses adversaires parce qu'il fera une grande place à l'automobile s'il devient premier ministre, bien sûr, endossant au passage le fameux projet de troisième lien. On l'écoute.
On a besoin d'un char, on a besoin d'un camion pour vivre dans les régions du Québec. Moi, je vais renverser ça. Vous allez pouvoir garder votre char et on va bâtir des autoroutes et des ponts pour que vous puissiez vivre une belle vie.
L'Ontario qui a déposé un projet de loi visant à assouplir le commerce interprovincial. Le premier ministre Doug Ford a signé des protocoles d'entente avec ses homologues de la Nouvelle-Écosse du Nouveau-Brunswick, convenant qu'un bien, un service ou encore un travailleur enregistré, reconnu dans une province est acceptable dans l'autre. La première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, espère que le Québec va s'ajouter au groupe. Elle a révélé que des discussions à cet effet sont en cours avec François Legault.
De travail qui se passe, qui est peut-être un petit peu unidirectionnel à ce moment. Nous sommes hâte de voir que c'est un vrai partenariat avec un échange libre et juste entre nos deux provinces. Alors ça, c'est une conversation que moi puis Premier ministre Legault, on continue d'avoir pour trouver la façon qu'on peut vraiment éliminer toutes les barrières possibles.
La Banque du Canada qui a choisi de maintenir son taux directeur à son niveau actuel, c'est-à-dire 2,75% en raison de l'incertitude commerciale mondiale causée par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Le gouverneur Tiff McClain s'est engagé, lui, à maîtriser l'inflation, affirmant que la prudence va dicter les prochaines décisions.
Ça veut dire qu'on sera moins tourné vers l'avenir que d'habitude jusqu'à ce que la situation soit plus claire. Ça veut aussi dire qu'on est prêt à agir de manière décisive si de nouvelles informations pointant clairement dans une certaine direction.
Et enfin, des dizaines de présumés cyberfraudeurs sont dans la mire de la Sûreté du Québec et de la GRC. Plusieurs frappes policières auront lieu jusqu'à demain dans le Grand Montréal. Les suspects sont liés à la plateforme de piratage LabHost, qui permet de créer, grâce à un logiciel, des sites web identiques à ceux des banques, des entreprises et des fournisseurs. L'enquête en collaboration avec le Centre national de coordination contre la cybercriminalité a permis d'identifier plus de 2600 comptes, dont les deux tiers au Québec. 30
minutes plus tard, la commission annoncerait à moins de 10 heures du débat qu'il serait effectivement plus là. Mais non, ça se faisait plus rendu là. Il était beaucoup trop tard. C'est une décision qui aurait dû être prise d'avance. Donc, un des constats qu'on peut faire de ce qui s'est passé hier, c'est qu'il va falloir démanteler ça au plus sacrant, cette commission
des débats. Ouais.
Juste partager quelque chose que j'ai trouvé hier sur le site de la commission, parce que tout le monde a fouillé un peu ça, combien ça coûte, qui fait quoi. Puis moi, j'ai accroché sur la foire aux questions, tu sais, FAQ. Là.
Oui.
La dernière question de la foire aux questions, c'est: la commission travaille-t-elle de concert avec des experts au Canada et ailleurs dans le monde? Et là, on nous dit, la commission participe à divers symposiums où nous échangeons des idées, de l'expertise sur les meilleures pratiques au sein d'un réseau international d'organisateurs de débats. Et en septembre 2023, la commission a eu l'occasion de présenter les résultats de ses travaux à un groupe international d'organisateurs de débats réunis à Washington. C'est ça que ça fait, là, finalement. Ça voyage, ça va dans des petits symposiums, c'est supposé d'apprendre les meilleures pratiques, clairement. Ça a été un échec sur toute la ligne.
Jonathan, moi, je suis absolument pas contre le processus, contre l'expertise. Mais quand tu regardes ce que TVA faisait avec, pas, sans les moyens de cette commission, sans l'expertise de cette commission, je trouve que c'était sacrément plus informatif pour le public. On voyait ce que les chefs avaient dans le ventre. Hier, là, c'était... je veux même pas dire foire d'empoigne. Au moins, dans une foire d'empoigne, il se passe de quoi? C'était plate. Les chefs avaient pas le temps d'expliquer ce qu'ils voulaient dire et il y avait pas de place pour se contredire vraiment non plus.
Ben c'est ça. Puis je tiens à mentionner que le collègue Patrice Roy a fait un excellent travail. J'ai trouvé qu'il a été bon, intervenant au bon moment, était assez strict. Mais c'est que le format dessert mal l'objectif. Ça serait efficace à deux ou à trois. Mais là, tu sais, je regardais les temps de parole, tu sais, ça donne quoi, 22, 23 minutes au total pour l'exercice par candidat. Quand je fais une chronique avec toi, à tous les matins, ça passe vite, là. Je te parle pendant 12, 13, 14 minutes. As-tu idée? Là, les gens doivent se faire une idée sur un petit échantillon, sur des débats qui sont très, très courts, qui sont concentrés. C'est difficile d'arriver à quelque chose qui soit concluant. Bref, une fois qu'on s'est dit ça, l'exercice a été fait. Quelle conclusion on en tire? Est-ce qu'il y a un gagnant? Est-ce qu'il y a un perdant? Ben d'abord, c'est quoi un gagnant? Pour moi, un gagnant, c'est celui qui va être allé chercher le plus de votes suite à l'exercice qui a eu lieu, ou, à contrario, celui qui en aura perdu le moins. Or, il n'y a pas eu de chaos. Fait que tu peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui a été, il a été faire le plein de votes, il a été gagné un maximum de votes. Et justement, comme il n'y a pas eu de chaos, selon moi, par défaut, c'est Mark Carney qui se trouve à sortir gagnant de ce débat-là parce que il faisait l'objet des attaques. Et je dois te dire que dans les 15 premières minutes du débat, je me suis dit, j'espère qu'il a mis double couche de déodorant, là. Parce qu'il se faisait, mais, il s'est fait, dans les 15 premières minutes, il s'est vraiment fait varloper.
C'est lui qui était ciblé.
Oui, oui. Mais, et après ça, j'ai trouvé que c'était plus nuancé. Il y avait des attaques qui étaient partagées entre chaque candidat. Mais il reste que, sans avoir été éclatant, il n'a pas eu l'air fou, paru en contrôle, calme. Moi, j'ai noté même que des fois, il voulait intervenir. On voyait, il levait la main, il voulait intervenir, il voulait répondre à quelque chose. T'sais, il n'a pas juste joué la trappe. Fait que, tu sais, il n'a rien fait d'exceptionnel, mais justement, c'est un peu comme quand il y avait eu cinq chefs, une élection. Il ne s'est pas planté. Les attentes étaient basses. Et sur les attentes basses,
oui.
Quand j'ai parlé de ça en début de semaine, que ça le servait bien, j'ai vu des gens dire que c'est donc bien épouvantable. Vous dites que les attentes sont tellement basses que ça va être facile pour lui de bien s'en tirer. Je note et je renote que si les attentes étaient si basses envers Mark Carney, c'est particulièrement à cause des spineux bloquistes puis des spineux conservateurs qui s'entêtaient à nous dire qu'il n'est même pas capable de dire deux mots en français. Alors que c'était pas faux, là. Pas un français qui est fonctionnel, qui n'est pas parfait, puis tout ça, mais. T'sais, je trouve que ces opposants ont contribué à baisser les attentes beaucoup, 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 beaucoup. Et les attentes, donc, qui étaient plus faciles à atteindre.
C'est-tu quoi? On a vu beaucoup de choses plates dans le débat hier. Là. Je referai pas, là. Je te redirai pas ce que je t'ai dit. Et pour moi, quand même, la vedette de ce débat-là, ça a été une absence. Le cadre financier des partis. Excluons le bloc, là. Mais les partis qui veulent gouverner arrivent au débat. On est à 10 jours de l'élection. Ils ont toujours pas, au hasard, présenté leur cadre financier. Et là, ils disent qu'ils vont le faire en fin de semaine. Ça aurait été quoi de le présenter avant le débat, qu'on puisse justement avoir peut-être un débat là-dessus? J'ai trouvé ça, moi je trouve ça d'un opportunisme qui est épouvantable.
T'as amplement raison. Et tu m'ouvres la porte à faire une petite critique sociale. Je fais toujours attention de ne pas avoir l'air de donner des leçons aux gens qui nous écoutent. C'est pas ça notre job. C'est pas dans ma personnalité. Mmh. Puis les politiciens ont souvent une grande part de blâme à s'allouer. Okay? On s'entendra tous là-dessus. Mais si tu as des politiciens, tu as quatre formations politiques qui sont tout à fait à l'aise de ne pas avoir dévoilé leur cadre financier avant un débat, avant le dernier stretch de campagne électorale, avant que le vote par anticipation débute, c'est pourquoi tu penses? C'est parce qu'ils n'ont aucune pression pour le faire. Parce qu'ils savent que le fait de ne pas avoir déposé de cadre financier encore à ce stade-ci n'amènera pas une espèce de soulèvement populaire de gens qui vont dire « Ben voyons donc, je m'attendais à ce que les partis me démontrent la crédibilité, puis là, ils le font pas. » Tu sais, il y a un peu de ça aussi, là. L'intérêt des gens à valider ça, on aime entendre ce qu'on veut entendre. Tu sais, moi, je dis la même chose. À Québec, les conservateurs sont bien populaires. T'sais, c'est le bastion conservateur. Et souvent, je m'obstine avec mon collègue Jérôme, puis là, j'ai des auditeurs, tu sais, qui vont me traiter de libéral, puis tout ça, parce que je questionne les conservateurs sur la crédibilité de l'engagement, par exemple, de baisser les impôts tout en coupant partout dans l'État. Puis je dis, OK, bien, montrez-nous, vous allez le faire. Tu sais, moi, je veux bien y croire aveuglément, mais justement, c'est parce qu'après ça, on se dit déçu. Quand les politiciens arrivent au pouvoir, puis ils font pas ce qu'ils ont livré, on se dit déçu. Mais à quel point on a exigé d'avoir une rigueur dans la démonstration de la faisabilité de ce qui nous est promis.
Tu trouves qu'on n'est pas assez exigeant. En fait, sais-tu quoi, ce que tu me dis, c'est un peu le syndrome Mark Carney. Il est premier d'un sondage, même s'il n'a pas fait beaucoup de sorties médiatiques, même si on le garde dans du papier bulle, c'est que les gens ont décidé qu'ils donnaient une carte sortie de prison pour ça. Tu dis qu'on donne aux partis une carte sortie de prison parce que ils présentent pas le cadre financier assez tôt dans la saison électorale.
Exactement. Des fois, okay, on dit que les politiciens parlent pas assez des enjeux puis font trop de communication. Mais qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui? Moi, si à chaque matin, à 7h, je te parle en détail de chacun des engagements des partis puis que j'explique en quoi c'est crédible ou non, je m'excuse, mais les gens vont décrocher, ouais, parce que ce qui nous attire, puis je mets les médias aussi là-dedans, c'est beaucoup, c'est l'image, c'est les controverses, c'est les ci, c'est les ça. Donc, en quelque part, les politiciens nous servent aussi un peu ce qu'on demande indirectement. Et là, j'arrête ma critique sociale ici parce que je suis tout à fait conscient que c'est un grand cercle vicieux et il y a une grande partie de la responsabilité qui revient aux politiciens qui, à force d'engendrer le cynisme, ont amené les gens à décrocher et tout ça. Bref, avant qu'on passe à la cote de crédit, juste te dire que Pierre Poilievre a bien fait, Yves-François Blanchet a bien fait aussi, mais les deux, de par le fait que Mark Carney ne s'est pas plantés, je pense, n'auront pas nécessairement réussi à renverser la vapeur. Et là, pour ceux qui disent « Oh, c'est ça, là, ça fait quelques jours que tu dis que Carney va être élu », je note que même notre collègue qu'on peut entendre dans le retour, Dimitri Soudans, sur Twitter, a mis Mark Carney gagnant du débat devant Pierre Poilievre.
Même s'il a grandi chez les conservateurs,
ben oui, l'ancien directeur des communications de Stephen Harper.
Bon, il y avait beaucoup de trafic dans le ciel médiatique hier. Il y avait le match du Canadien qui a forcé, la diffusion plus tôt que prévu du fameux débat électoral. Mais il y avait aussi, et ça, on n'en a pas assez parlé, je trouve, le coup de tonnerre à Québec. Il y a une agence de cotation new-yorkaise qui a décidé d'abaisser la cote de crédit du Québec, c'est Standard & Poor's, qui n'avait pas fait ça depuis des décennies.
Si on oublie toute la saga de Donald Trump, les tarifs, les perspectives là, sombres, je me souviens pas de la dernière fois qu'on a eu une aussi mauvaise nouvelle que ça pour le Québec. Pour les gens qui sont moins habitués d'entendre parler de cote de crédit, puis je vous comprends, la dernière fois qu'on a eu une décote, c'était il y a 30 ans. J'avais 13 ans, Patrick. Il y a 30 ans qu'on a eu une décote, c'est très,
Robert
très
Bourassa
mauvais.
Était premier ministre.
Non, mais c'est fou à quel point c'est mauvais. Je sais que Marie-Ève, dans quelques minutes, va parler des impacts économiques. Je sais que le gouvernement semble dire « Ah, faut pas surévaluer l'impact économique parce que l'incertitude se faisait déjà sentir dans les taux d'intérêt en ce moment. » Donc, j'ai hâte de voir ce que Marie-Ève aura à nous dire là-dessus. Mais politiquement, pour un ministre des Finances, c'est un cauchemar, là. Parce qu'il y a tous les impacts qui viennent avec, hausse du coût d'emprunt, les intérêts sur la dette et tout ça. Là, on a vu Hydro-Québec aussi qui est décoté. Moi, j'ai des élus qui m'ont écrit pour me dire, il y a des villes qui empruntent au gouvernement du Québec. Donc, eux autres, forcément, ça va leur coûter plus cher d'intérêts. Et ces villes-là aussi ont des cotes de crédit, donc vont potentiellement être décotées parce que le gouvernement a été décoté. Bref, il y a une espèce d'effet domino qui est terrible. Mais vraiment, politiquement, j'insiste là-dessus, attendez-vous à ce que, à peu près à tous les jours d'ici à l'élection d'octobre 2026, François Legault, Éric Girard se fasse remettre sur le nez le fait qu'ils sont les responsables de la décote de crédit du Québec, d'autant plus que Standard & Poor's mentionne très bien, quand on lit le rapport, que oui, il y a la guerre tarifaire, mais que tous les indicateurs négatifs qu'il soulève existaient avant oui. que la guerre des tarifs. Donc, on ne pourra pas juste justifier ça, on ne pourra pas juste dire que c'était la pandémie. Il y aura des choix politiques qui ont été faits, qui devront être justifiés. Puis je comprends au gouvernement, on dit « Ouais, mais en même temps, vous nous reprochez le